VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump s'est adressé hier soir à Washington aux deux chambres du Congrès américain réunies en session conjointe. Loin de la tonalité de son discours d'investiture, le 45e président des États-Unis a décliné ses priorités pour donner corps à un engagement central. Donner la priorité aux Américains. Le compte-rendu de Nicolas Pineau, qui était sur place au Capitole.
Oui, le 45e président des États-Unis a pris de la hauteur cette nuit pour ce discours prononcé devant le Congrès américain. Loin des accents belliqueux et des polémiques qui rythment le début de son mandat, Donald Trump a d'abord appelé l'Amérique à l'unité en dénonçant notamment les attaques contre les centres communautaires juifs du pays ou la mort de deux Américains d'origine indienne tués dans ce qui semble être un crime raciste.
Well, we may be a nation divided.
Nous sommes peut-être une nation divisée sur la politique. Nous sommes un pays qui reste uni pour condamner la haine et le mal dans toutes ses formes les plus affreuses. Je suis là ce soir pour délivrer un message d'unité et de force, et c'est un message délivré du plus profond de mon cœur.
Le président Trump a rappelé l'une de ses promesses de campagne et promis de créer des millions d'emplois aux États-Unis. Il demande ainsi au Congrès de valider un plan de 1 000 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures du pays, comme les routes ou les ponts. En matière de lutte contre l'immigration clandestine, le président Trump annonce que le mur à la frontière mexicaine sera bientôt construit. Il affirme aussi que la politique migratoire américaine va changer pour se tourner vers une immigration choisie. Au mérite.
I'm going to bring back millions of jobs.
Je vais faire revenir des millions d'emplois et protéger nos travailleurs. Ça veut dire aussi réformer notre système d'immigration légale. Des pays comme le Canada ou l'Australie et bien d'autres dans le monde ont des systèmes migratoires basés sur le mérite. C'est un principe de base que ceux qui veulent entrer dans un pays doivent pouvoir subvenir à leurs besoins financiers, mais ce n'est pas ce qu'on fait aux États-Unis, utilisant les maigres ressources publiques dont dépendent nos concitoyens les plus pauvres.
Alors que Donald Trump demande au Congrès une hausse du budget de la défense de 54 milliards de dollars, le président américain a redit hier sa volonté de vouloir détruire l'organisation État islamique qui résiste toujours en Irak et en Syrie.
Nous prenons aussi des mesures fortes pour protéger nos frontières du terrorisme islamique radical. Nous avons vu les attaques à la maison de Boston, à San Bernardino, au Pentagone, et même, eh oui, le World Trade Center. On a vu les attaques en France, en Belgique et en Allemagne, et partout dans le monde. On ne peut pas laisser notre pays devenir un sanctuaire pour les extrémistes. C'est pourquoi mon administration travaille pour améliorer les mesures de contrôle des migrants, et nous prendrons d'autres mesures bientôt pour maintenir la sécurité de notre nation et maintenir en dehors du pays ceux qui nous veulent du mal. Comme promis, j'ai instruit le ministère de la Défense de développer un plan pour démolir et détruire le groupe État islamique, un réseau de sauvages sans foi ni loi qui a massacré des chrétiens, des musulmans, des hommes, femmes et des enfants de toutes religions et de toutes croyances.
Autre thème cher à ses électeurs, Donald Trump demande aux républicains et aux démocrates de supprimer l'Obamacare, la réforme de l'assurance maladie, une loi symbolique votée sous son prédécesseur Barack Obama.
Merci Nicolas Pineau. Dans leur réponse au discours du président Trump, les démocrates, par le biais de l'ancien gouverneur du Kentucky, Steve Beshear, se sont engagés à créer des opportunités de réussite pour tous les Américains à travers une croissance économique génératrice d'emplois bien payants, ainsi que l'éducation et la formation des travailleurs pour ces emplois. L'opposition démocrate a également souligné sa détermination de promouvoir la sécurité nationale et des soins de santé accessibles aux familles. Concernant l'Obamacare, le système d'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama, Steve Beshear a dit que le projet des républicains de le remplacer accroîtra les coûts en fournissant moins de soins. Afrique maintenant, RDC, c'est le 11 mars que la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi va être rapatriée à Kinshasa, la capitale. La famille du disparu en a fait l'annonce à Bruxelles, en Belgique, où la dépouille mortelle est gardée depuis son décès le 1er février. Edi Sango a joint à Bruxelles l'abbé Théodore Chilumba, secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi.
La date qui est retenue jusque-là et celle du 11 mars 2017. Et je confirme, Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba a fait un communiqué de presse. J'étais à ses côtés au sujet des obsèques du président Étienne Tshisekedi Moulumba. Le communiqué est très clair là-dessus. Hein. C'est après concertation des deux familles, biologique et politique, qu'on a pris cette décision-là. Les conditions ont été posées. Les autorités de Kinshasa ont proposé un endroit. Donc après concertation, les deux familles ont trouvé que dans un premier temps, on peut inhumer le corps du président Tshisekedi à la Gombe, mais après, on trouvera un autre endroit où sera érigé un mausolée.
Et qu'en est-il de la nomination du Premier ministre que sa famille politique exigeait ?
Les démarches sont là. On sait que ça va venir parce que le président lui-même avait déjà présenté le Premier ministre conformément à l'accord du 31 décembre 2016.
La dépouille de M. Étienne Tshisekedi est restée à Bruxelles, entre autres aussi, pour l'autopsie. Qu'en est-il ?
Les avocats qui ont les dossiers font leur travail et après, je vous dirai quoi.
L'abbé Théodore Chilumba, secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Mali, dans le nord du pays, l'autorité intérimaire de la région de Kidal, fief de la CMA, l'ex-rébellion à dominante Touareg, a finalement été installée hier après plusieurs reports. L'éditeur avec Jacques Aristide.
À Kidal, le président du conseil régional, Hassan Ag Fagaga, a reçu hier les symboles de l'État lors d'une cérémonie sous haute surveillance des forces de l'ONU et de l'opération française Barkhane. Les différentes autorités devaient initialement être installées à partir du 18 février, mais plusieurs groupes avaient contesté certains choix et le gouvernement de Bamako, par souci d'apaisement, avait reporté les cérémonies. Maintenant, les dirigeants provisoires des quatre autres régions administratives seront installés jeudi à Gao et Menaka et vendredi à Tombouctou et Taoudeni. En vertu de l'accord de paix de 2015, ces autorités intérimaires devront gérer les cinq régions du nord malien en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Ces nouvelles autorités devront préparer ces élections et favoriser le retour des déplacés du conflit politico-militaire dont le Mali tente de se relever depuis 2012.
Au Burkina Faso, le groupe Ansarul Islam de Malam Ibrahim Diko a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans la nuit de lundi à mardi de deux commissariats de police dans la province du Soum, dans le nord du pays, près de la frontière malienne, et ce, deux mois après celle ayant coûté la vie à 12 soldats burkinabés dans le même secteur. Pour une analyse, Idriss Fall a joint à Saint-Cloud dans l'état du Minnesota. L'ancien journaliste Ibrahim Maïga.
Malam Ibrahim Diko, c'est un prédicateur de la zone du Soum, la province où les attaques se perpétuent couramment au niveau du Burkina Faso. Et c'est quelqu'un qui a fait une partie de ses études coraniques au Mali et une autre partie au Niger, puisqu'il a beaucoup séjourné à Niamey.
Apparemment, il avait pignon sur rue dans la ville de Djibo.
Effectivement. En fait, en 2012, il avait été arrêté par l'armée française lors d'une opération. Il a été libéré deux ans après avoir été détenu à Bamako. Il est revenu à Djibo, où sur une radio locale, il faisait des prêches en permanence.
Mais à partir de quand s'est-il radicalisé alors ?
Il a toujours été très radical. Le radicalisme dans nos zones, ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais c'est le fait qu'il ait pris les armes qui a mis à lumière la situation.
Et qu'est-ce qu'il veut donc ? Est-ce que c'est le djihadisme tel qu'on le connaît au niveau de Al-Qaïda ? Ou bien c'est comme Amadou Koufa au Mali ?
Il est très lié à Amadou Koufa. Il joue sur la fibre ethnique. Il a les mêmes ambitions parce que pour lui, la seule chose qui est acceptable dans la zone, c'est d'avoir l'islam comme principale religion. Et aucune autre religion ne peut être tolérée ou acceptée dans la zone. Donc c'est les mêmes ambitions en quelque sorte, sauf à l'exception près que lui, il parle d'instaurer le Djelgodji. Le Djelgodji, c'est un sous-groupe ethnique Peul qui avait un territoire dans la zone de Djibo dans les temps anciens. Il parle de restauration du Djelgodji et de l'indépendance du Djelgodji pour l'islamiser.
En fait, un djihadisme bien local et bien burkinabé.
C'est un djihadisme purement local et largement ethnique.
Ibrahim Maïga, ancien journaliste basé à Saint-Cloud dans le Minnesota, ici aux États-Unis. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. www.voixdafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.